France Inter.
Et c'est la bande originale. Avec Lisa, avec Moitié, avec... Puis avec Tanguy Passion, Mélodie Fontaine, Daniel.
Bonjour Mélodie.
Et mes invités, Sophie Guimard et Yannick Chan.
J'adore.
Les malvenus, j'adore l'idée d'avoir des invités, dire vous êtes les malvenus.
Mais quelle belle comédie. Mais...
Bonjour Sophie, bonjour Yannick, vous allez bien?
Bonjour, ouais, super.
Bon,
super.
Parfait. Là. Ce mercredi sur France 2 à 21h10, c'est Malvenu avec Géraldine Pellas et Jonathan Zakaï. On va en parler dans quelques instants, mais d'abord, jouons et essayez de retrouver...
Daniel, Georges Brassens.
Non, Renan Luce, les gars.
Oui, ouais, exactement.
Ah, t'as dit Leila après.
Aux voisins, mes voisines, qui sèchent leur dentelle, au vent sur les balcons.
Vous pouvez jouer si vous voulez.
C'est toi qui danse, quand danse la mousseline, invité au grand bal.
J'ai dit que c'était ce mercredi, je suis désolé, c'est le 17 avril en fait. Mercredi 17 avril, pour une fois qu'on prend de l'avance. Et là.
Daniel, Véronique Sanson.
T'es sûr?
Non.
Tu sais, moi je dis n'importe quoi, j'ose.
On avait donc Renan Luce, les voisins, ok?
Ah, c'est en rapport avec les invités.
Et si j'ai tort?
Daniel Obispo.
Non.
Leila Fiori.
Non.
Ah si.
Ou rien.
Leila Roque voisine.
Mais oui, voisin, voisine.
Évidemment.
Faites un effort, quoi. Faites un effort.
Mais oui, mais moi j'étais sur le chant, la chanson, pas sur le.
Je ne pensais plus à l'artiste voisin.
J'ai pas compris.
Roque voisine. J'explique, moi. Pardon, Daniel.
J'adore.
Je crois que c'était hyper lent.
Je suis là.
Je voulais t'aider, je voulais t'aider.
C'est mignon.
Oui,
c'est mon chance.
Ça s'appelle pas Leila Roque-Voisine.
Tu sais, la chatte à ta voisine, Leila.
Oui.
La Francky Vincent, non?
Francky Vincent.
Vous êtes bien sur France Inter. Voici Francky Vincent. El Bimbo.
J'adore.
Voler?
Qu'est-ce que c'est que cette chanson?
Pardon.
Un peu de respect pour Francky Vincent. Ouais. Francky est un monument.
Il nous manque.
Vas-y, Francky, c'est bon.
C'est un peu inquiétant, là, que tu connais tout ça.
Après 22h30, c'est pas la même. Hein, c'est ça.
J'avais pas entendu ce sonnerie de portable.
Qui chante ça?
Mademoiselle.
Leila, oui. Encore malade?
Non.
Vraiment, ce qui s'est passé.
Daniel, de
oui.
Préto.
Non.
Ah, grand
c'était
grand.
Un voisin si charmant,
Leila
si
Soprano.
Gentil.
Oui.
Il avait l'assurance. C'était une voisine si
Soprano.
Charmante, si gentille. Elle avait toute une femme épanouie. Elle avait les mots pour nous réconforter quand on lui confiait nos cœurs brisés.
Et là, donc c'était
ah, oui, ça, je connais ça.
Ça s'appelle la voisine. Tu peux jouer, hein.
Mais là, Jean-Jacques Goldman.
Non.
Caroline Frédéric Jones, c'est pas.
Non.
Je la connais.
Français.
C'est ouais. Français, bien sûr. C'est les années 90. 80-90, France Gall.
92.
Véronique.
Exact.
Véronique Gall.
Non. Véronique Sanson.
Oh. Ah, mais oui.
J'entends les bruits dans l'escalier. Peut-être il va jouer du piano. Moi j'écouterai si fort.
Ça s'appelle Mon Voisin.
Je te crois.
Je pensais pas qu'il y avait autant de voisins et de voisines dans les chansons.
Ah, ça, on a des surprises.
J'ai une idée. Ouais.
Qui chante ça?
Daniel Johnny.
Non mais un pote.
Eddie Mitchell.
Plus breton.
Mieux sec.
Exactement, le voisin.
Le voisin de palier qui s'évapore.
Bravo.
Comme ça du jour au lendemain peut ouais, peut-être faire.
Alors pour l'instant, 5 points pour Leila, 1 pour Daniel.
Bon, mais on n'a pas l'air, mais.
Mélodie, Elisa.
Oui, ça va trop vite.
Elisa, la porte Coldplay.
Je veux bien que Sophie et Yannick se disent c'est qu'un mauvais moment à passer, mais enfin vous quand même. Tout se joue là-dessus.
Ah. Leila, Bernie, mon voisin, pas du tout.
Daniel.
Ah ouais, ça, j'aurais dû le faire, ça.
Ouais.
Taylor Swift.
Non.
Leila,
c'est
Abel.
Ah, bravo.
Ouais,
on a
bégayé,
là.
Mais chacun son côté de cloison. Et chacun son feuilleton.
Chacun du côté du cloison.
Le cloison.
Le voisin.
Le voisin.
La cabane. Au fond du jardin.
Victoire de Leila.
France Inter.
Bien joué, bien joué, bien joué.
avec Nagui et Leïla Camille.
Car tel est le problème, vous êtes des voisins, les voisins de Géraldine Pellas et Jonathan Zakaï dans cette fiction qui arrive le mercredi 17 avril sur France 2. Et on se demande qui sont les malvenus d'ailleurs, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est eux?
Ah oui, carrément, oui, oui c'est vrai.
Bah oui, qui des deux couples?
Ça dépend du point de vue, ouais, c'est clair. Ouais. De notre point de vue, c'est eux.
Ouais, tout à fait. Ouais. Mais bon, ouais. Puis on est mal arrivés aussi.
Bah, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le même univers. On est dans l'univers pour le couple de Parigo, et je crois que c'est vous qui le dites, Yannick, tête de veau. Parigo, tête de veau. Ce sont les Parisiens qui arrivent et qui décident de se lancer dans le yoga, la culture des
escargots.
Des escargots et qui sont dans un autre univers.
Un peu zen.
Vous êtes dans le truc extrêmement concret, c'est-à-dire vous avez une baraque parce que vous ne payez pas le loyer et vous êtes venu pour la garder.
Exactement. Ouais. Oui, oui, c'est le frère du personnage que joue Jonathan Zakaï qui veut pas lui céder la partie du mât provençal et donc qui, un mois après leur arrivée, envoie une famille qui est un peu haute en couleur, on va dire.
Ah, bravo.
Réalisé par Sandrine Vesède, vous êtes pas exactement dans le même rapport, ou j'allais dire dans la même agressivité, l'un et l'autre. Sophie, vous, votre personnage, il est plus rentre-dedans, on va dire. Dès le début, vous savez que ce sont pas vos potes.
Il est assez cash, ouais.
Ouais, alors que votre mari, lui, essaye de tendre la main.
Il est cash, mais plus diplomate, effectivement. Ouais. Enfin, moi, je suis assez diplomate aussi, je trouve.
Non, bah non. Bah non, vous n'avez pas vu le film, écoutez.
Bah si, mais oui, c'est de leur faute si je réagis comme ça. D'accord, bah, j'y vois rien, moi, s'ils sont chiants, c'est
non, bon. Sophie, je vous aime beaucoup, mais non. Vraiment, dans le film, non.
Non, là c'est chaud, non. On ne peut pas défendre le personnage, c'est pas possible.
Qui sommes-nous pour
juger? D'autant qu'il y a une scène qui est extrêmement drôle dans le rapport entre les deux. On peut en parler ou pas on peut parler de tout?
Oui, je pense.
Je ne parle pas de la fin.
Je parle d'être
enceinte ou pas. Ça m'a fait extrêmement rire. C'est-à-dire que les deux hommes, entre guillemets, deviennent un peu potes. Enfin, ils se parlent, ils prennent des coups. Et puis, le personnage...
Ils boivent des coups.
Ils boivent.
Ils prennent des coups, c'est une autre soirée.
Ça, c'est chez toi, Nagui. C'est la soirée.
Enfin bon.
Je dis pas, viens prendre un coup avec toi. Et donc,
prendre une douche.
Et donc, merde, ça s'est entendu, tu vois.
Non,
non, je sais pas.
Le casque était fermé, donc je crois pas que le micro soit ouvert. Et donc les deux hommes, tant bien que mal. Et puis d'ailleurs, Jonathan Zakaï explique à sa femme qui est très tendue sur le voisinage. Elle dit, mais ça va, on peut faire un effort. Viens, on peut y aller.
Puis prendre des coups.
Il y a un ado qui est sympa. On joue au ping-pong, on y va. Donc voilà, il y a un anniversaire. Voilà.
Conciliant.
Et puis, exactement. Et puis, dans la discussion, votre personnage, Yannick, dit « Ma femme est enceinte ».
Ouais.
Il explique, voilà. Donc le mari retourne, Jonathan Zakaï retourne en disant « Sa femme est enceinte ». Donc évidemment, Géraldine Pellas dit « Ah, alors vous êtes enceinte ». Et là, vous répondez quoi?
Ah, je lui dis non.
Surtout dites-moi que je suis grosse.
Ouais, c'est ça.
C'est une façon de me dire que je suis grosse.
Et là, c'est tellement drôle parce que
la gêne.
Il y a ce moment de gêne où même nous, spectateurs, on se dit oups. Donc qui a fait la vanne?
Qui a fait la vanne?
Est-ce que c'est le mari qui a outé sa femme en disant elle est enceinte alors qu'elle l'est pas, mais juste pour se marrer?
Ouais.
Est-ce que c'est
ça qui est génial?
Voilà.
Jusqu'à la presque fin.
Exactement.
On ne sait pas vraiment qui dit la vérité.
Exactement. Les malvenus, une tension sur le voisinage. Vous avez déjà vécu ça dans votre vie? Sans dire dans quel voisinage ni avec quel voisin.
Moi, j'ai des noms à balancer. Là.
Non, mais c'est vrai que ça peut foutre en l'air une vie.
Ah bah ouais. Moi, j'ai pas eu ça à ce point-là. Quoi. J'ai juste eu une étudiante qui tapait avec son balai sur mon sol.
Pour vous demander d'enlever vos talons.
Ma fille de 1 an crapahutait et ça faisait du bruit pour elle.
D'accord.
Donc, je lui ai demandé exactement ce qu'elle voulait que je fasse. Si elle voulait que je l'attache au radiateur, par exemple.
Ouais. Et, bon, étudiante
tout... Ouais.
Oui.
Ah ouais. Et vous, Yannick,
c'est les fantômes.
Ouais, moi, ça m'est arrivé. Ouais. J'habitais vers la place Clichy. J'avais une voisine
Clichy.
Et j'avais une voisine qui était en fait qui faisait des passes en fait, qui était prostituée. Et du coup, c'était très compliqué, quoi.
Parce que, franchement, vous êtes conciliant.
Ouais, c'était compliqué.
C'était du bruit.
Ouais, c'était du bruit. C'était aussi de la violence, pas mal.
Et puis, c'est plus problématique.
Très pauvre.
Et autour de la table, Mélodie, tu as déjà eu des voisins
Moi, je me suis déjà fait embêter par des voisins qui faisaient énormément de bruit.
Oui, un peu comme Yannick.
Ouais, et du coup, maintenant, on est au dernier étage.
comme
ah, t'as
ça.
T'as déménagé pour éviter
ouais,
les voisins.
Exactement.
Et pour être celle qui fait du bruit pour les
yes.
autres. Avec cette bizarre.
Non, j'avais une discussion il y a pas longtemps et elle m'a fait remarquer que si t'as pas de voisin emmerdant, c'est que c'est toi. Le voisin qui fait ouais. chier l'immeuble. Ah donc ouais. je me remets en question. Mais...
D'accord. Leïla ?
Non, moi je m'entends très bien avec les voisins. On a toujours fait des petites fêtes.
Aujourd'hui,
petites...
oui, mais est-ce que dans ta ouais. vie, tu as
ah, toujours, avant. Toujours. J'ai toujours eu des voisins super.
T'as toujours
tout
eu des appartes insonorisés.
Non, mais en fait, bon, bah voilà, quoi. Tu vis avec les
D'accord.
gens.
Daniel ?
Moi, ils ne mouffent pas.
Enfin,
je peux
plus.
Te dire qu'il mouffe te plus.
Ouais. En fait, je suis en train de me rappeler d'un autre voisin, effectivement. Ah. Ça, c'était à Place des Fêtes, dans une tour un peu grande. Et bon, il était un peu fou. Et du coup, lui, il mettait carrément de la musique en pleine nuit, un peu genre gothique, vous savez, D'accord. les trucs avec les grandes voix, machin, mais hyper fort. C'est-à-dire que moi, j'étais Rammstein. À trois okay. étages au-dessus et tout le monde l'entendait. Et il hurlait. Il hurlait sur la musique encore plus fort que la musique. Et ça, c'était quand même assez flippant. Parce qu'il
mais il est chiant, vraiment nous chiant. Hein.
Il a failli mettre le feu une fois à son appart.
Ah oui, parce que c'est vrai qu'il y a des voisins
c'est
qui
c'est
peuvent...
C'est des pathologies.
Ouais.
Ouais.
Mais carrément être un danger pour tout un immeuble. Là, on est dans deux maisons. Alors, le point de départ, et c'est là aussi où ça commence mal pour le couple de Géraldine Bellas et Jonathan Zakaï, c'est-à-dire que c'est suite à un procès entre son frère et lui... sur la maison de la grand-mère, je crois, où il y a une répartition des lieux, et il récupère que la moitié, entre guillemets, de la propriété, alors que le frère voulait se débarrasser de tout. Et c'est son frère qui vous envoie, vous, garder l'autre moitié, mais peut-être avec une espèce de consigne de « allez bien pourrir la vie de mon frère », parce que c'est allé jusqu'au
ouais.
tribunal.
Ouais,
on ne sait pas si vous êtes manipulé.
Ouais, c'est ça, ouais, on ne sait pas, mais... Mais oui, il hérite de ça, et puis nous, ben, on est les intrus, quoi, un peu pour eux.
Et c'est deux classes sociales, c'est aussi deux classes sociales, c'est deux mondes qui ne veulent pas se rencontrer. Le personnage de Géraldine Payas
très baisse belge, ouais.
Est très opposé dès le départ, c'est-à-dire elle n'a pas du tout, alors elle n'a pas envie de se faire déborder, ce qu'on peut entendre, mais elle n'a surtout pas envie de montrer qu'elle peut être un individu lambda, normal, en fait. Elle est supérieure, elle se sent supérieure.
Ben, complètement.
Ouais, c'est pour ça que moi je trouve qu'on est beaucoup plus sympa qu'elle.
Ouais. C'est pour ça que vous êtes venus, c'est pour ça que vous êtes venus ici.
Eh ben, c'est vous qu'on a invité là.
C'est Géraldine Palace, mais elle n'a pas voulu. Elle a dit non, je n'ai pas.
Nous, on l'a invité à un apéro.
Ouais.
C'est vrai.
Au barbecue
nous,
aussi.
C'est au barbecue.
Ah oui,
barbecue.
Ça s'appelle Les Malvenus. Ça sera le 17 avril. On continue d'en parler jusqu'à midi et demi avec Sophie Guillemin et Yannick Chouara qui sont nos invités. Mais d'abord, voici Lisa Daniel. Et vous, Lisa, contrairement à Sandrine Vesset, vous n'auriez pas fait une fiction comme ça sur les voisins, vous ?
Bah non, pas du tout. Pas du tout, non, je vous aime bien, les Français. Hein. Mais dans la série, on parle d'élevage d'escargots.
C'est vrai.
Ça, je peux pas. Alors, bouffer des gastéropodes. Mais entre ça et les huîtres, c'est quoi ce goût que vous avez pour les trucs baveux ? Alors, ça doit être pour ça qu'on dit que les hommes français font les meilleurs amants.
Oh.
Je peux pas manger des escargots, c'est impossible, c'est trop mignon. Moi, je peux pas manger un être vivant qui se déplace avec sa petite maison, quoi. Vraiment, moi, si j'étais cannibale, je pourrais jamais bouffer du gitan, par exemple. C'est vraiment pas possible. Et dans Les Malvenus, donc vous deux, Yannick et Sophie, vous venez péter la bulle d'un couple de Parisiens venus à la campagne donc pour élever des escargots, faire du tai chi. En même temps, franchement, ça leur apprendra aux Parisiens à toujours penser que l'herbe est plus verte ailleurs, non? Enfin, sauf chez le dealer de Mélodie Fontaine. C'est vrai qu'elle est presque fluo chez toi, c'est fou ça. Enfin, si vous pensez que les personnages de Mélodie sont écrits à jeun, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Hein. Ce qui est le pire endroit où mettre son doigt après le nez. Je précise, hein, je rappelle que vous les Français, vous avez mangé des trucs gluants. Faites pas les dégoûter, un peu de beurre, un peu d'ail, vous les bouffez, vos crottes de nez.
Oh
ouais, et vos deux... Oui, je vais arrêter. Non, je vais continuer. Et vos deux personnages, donc ils ont un ado et deux chiens. Manque plus que le bébé, et c'est le pack complet du voisin chiant. Et tu sens qu'ils sont perfectionnistes dans leur chiantitude, puisqu'il y a ce doute. Votre personnage, Sophie, est-elle enceinte? On ne sait pas. A-t-elle une brioche au four? Une surprise dans le Kinder? Un cadeau dans la cheminée? En tout cas, ça ne vous empêche pas d'être encore très tactiles, tous les deux. Et oui, après tout, en cette période de Pâques, je rappelle que c'est quand le fait plein, qu'on y trempe sa mouillette. Ouais. Je vous préviens, le personnage de Yannick Chouara m'a inspiré. Je suis en roue libre aujourd'hui, vraiment. Il a quand même une blague qui commence par « Quelle est la différence entre une minute de sodomie et une minute de fellation ?» Yannick, vous êtes mon maître beauf. Le Yoda du gros lourdeau. Le Yodo, voilà, c'est vous.
Ah,
donc c'est... Donc c'est... Non, personnage, bien sûr. Donc c'est des voisins chiants et en même temps, vraiment, j'ai pas pitié pour le couple que vous emmerdez. C'est insupportable, ces Parisiens qui pensent qu'ils vont trouver enfin la paix à la campagne. Si tu l'as pas trouvé en ville, tu la trouveras pas ailleurs. La paix, c'est comme une piscine. Le mieux, c'est quand elle est à l'intérieur. Voilà. Ça, la piscine intérieure, c'est quand même le luxe ultime, quoi. Tu le trou dans le jardin, il régale en été, mais tu sais que t'es vraiment riche quand t'as un pédiluve dans la cave. On dirait une expression coquine, ouais, un mais j'ai cherché pendant des heures, j'ai pas trouvé c'est ce pas que ça pourrait dire. Mais pas une idée, maître Yodo, non. Mais j'ai pas pitié, quoi. Faut accepter ses voisins, c'est comme ça. En vrai, je vous admire, vous deux, enfin vos personnages, bien sûr. Moi, parfois, j'ai envie de faire chier mes voisins, mais j'ai aucune munition. J'ai ni chien ni enfant. Mon max niveau bruit, c'est quand je passe la tondeuse. Je précise que j'ai pas de jardin. Hein. Parce que parfois, je dois débroussailler. Faudrait que je me mette à un instrument de musique, peut-être. Faut savoir que derrière tout grand guitariste, il y a un voisin qui a gueulé. C'est pas bientôt fini. Oui, pendant 10 ans. C'est comme ça qu'est né AC/DC, hein, d'ailleurs. Tu joues bien de la guitare, finalement. Mais toi, tu gueules bien. Mais si on montait un groupe. Donc bon, j'ai encore plein de choses à apprendre de vous deux pour devenir une voisine aussi emmerdante que vous et une beauf aussi lourde que votre personnage, Yannick. Ce qui me fait penser qu'il y a quand même un moment où je suis une voisine bruyante, c'est au lit. Voilà. Ah. Non pas que je gueule, hein, mais il n'y a que quand un mec s'apprête à tremper sa mouillette que je me rappelle qu'il est temps de passer la tondeuse.
Ouch, merci.
Ce soir, absolument, à la Nouvelle Scène à Paris.
Et mercredi, 17 avril à 21h10, Les Malvenus. Est-ce que vous voyez ce film de Sandrine Vesette comme un drame, une comédie, c'est une sorte de thriller, il y a une tension quand même, on peut pas tout dévoiler, mais ça peut virer au drame cette situation. Sophie, je vous dérange.
Mais je buvais vos paroles.
C'est parce que je vous reprends à jouer. Ouais. Faites le tri.
Vous devez.
Non, mais comment vous qualifiez cette série?
Je ne savais pas si Yannick voulait répondre en premier, comme je suis très polie. Et non, ça commence effectivement plus
ça,
comme une comédie.
C'est quand on ne veut pas répondre que l'on dit.
Non.
Vas-y toi.
J'ai hyper envie de répondre. Okay. Ça commence comme une comédie et ça finit en tragédie.
Comme souvent dans la vie, d'ailleurs.
On parle pour toi.
Non, mais c'est vrai. Non, mais on se dit, il y a là une sorte de légèreté, en effet, au début, même si la première scène qui implique Géraldine Pellas avec sa famille, on sent qu'il y a de la tension, de l'électricité, avec sa sœur, avec sa mère. Elle envoie bouler tout le monde. On sent vraiment qu'elle rejette une éducation très bourge, très pète sec. Tout y arrive, hein, le divorce, l'avortement.
Il y a une douleur de ne pas avoir d'enfant, de ne pas réussir à faire des enfants alors que sa sœur en est au troisième. Enfin, il y a quelque chose de douloureux. On sent de toute façon que le drame va arriver.
D'une façon
ou d'une autre, le drame va arriver, c'est inéluctable.
Ouais, alors que le personnage de Jonathan Zakaï est beaucoup plus détendu. Lui, il est plus zen, il est plus ouvert. C'est lui d'ailleurs qui fait les premiers pas vis-à-vis des voisins.
Lui, il est plus positif, parce que lui, il part pour construire quelque chose. Elle est plus dans la fuite, ce qui est exposé dès le départ.
Il connaît le terrain en plus, il vient de là en fait.
Il a un
attachement à la terre qu'elle n'a pas du tout.
Oui, c'est chez lui effectivement. Ouais.
Et puis il y a votre enfant, brillamment joué par Simon Zampieri, qui est l'ado, qui est bientôt un homme mais pas totalement. Et là il y a toute une suspicion, un jeu de séduction, on ne sait pas si...
Mais qui est très poli en plus, il est très court, trop bas.
Il est très différent de son père.
Ouais, très différent. C'est ce que j'essayais de dire.
Je trouve ça hyper intéressant, quoi.
Il pourrait appartenir à l'autre famille, en fait. Mais comme dans les histoires d'enfants laissés, abandonnés. Dans les contes, en tout cas, on se dit, tiens, lui, il est plutôt le fils du roi, quoi, plutôt que...
Ouais, exactement. Ouais. Enfin, ça pourrait être un transfuge, aussi. Ça me faisait penser à, pour en finir, avec Eddie Baliol.
Édouard Louis.
Ouais, complètement. Ce personnage me faisait penser au roman d'Édouard Louis.
Donc, il a un père extrêmement cash, voire trash, tension avec la mère aussi. Et lui, il est d'abord, il est beau gosse,
il est plus posé.
Il est extrêmement posé, il est là pour aider, pour emprunter éventuellement un objet, mais venir le rapporter le lendemain, très poliment. Mais
il rentre dans la maison sans prévenir.
Un peu invasif quand même.
Il est un peu bizarre.
Et comme par hasard, au moment où Géraldine Pellas prend son bain. Comme par hasard.
Il est un peu voyeur. Ouais.
Et donc, de là arrive en effet une suspicion de il va se passer quelque chose entre lui et le couple, voire l'un des deux dans le couple. Je n'en dis pas plus, mais il y a cette suspicion-là qui vient même de son père, d'ailleurs, en disant qu'est-ce qui se passe.
Bien sûr, et puis je trouve ça intéressant, parce que comme ils sont assez différents, le père et le fils, il y a quelque chose qui échappe au père et il a peur de ça aussi.
Qui lui échappe.
Bah oui, qui lui échappe. De toute façon, c'est un personnage. Moi, je trouve le personnage que je joue de Fred, que c'est quelqu'un qui a peur. Parce qu'il a des attributs comme ça, il se donne un air, il est
inquiétant. En général. Il est très macho quand même.
Oui, il est très macho, mais ça, je trouve que c'est toujours une manière d'avoir peur en fait.
De se protéger de quelque chose.
De se protéger, d'être toujours en sur. Je surinvestis ma personnalité comme ça, j'essaye d'être. Et ça, moi, ça trahit toujours. Avec ses deux chiens en plus.
Ils
se protègent, quoi.
C'est des fauves.
C'est des fauves. Ils m'ont mordu d'ailleurs.
C'est vrai.
Non, mais vite fait, vite fait.
Bah, vite fait, quand même.
Vous avez besoin de votre bras quand même.
dans cette série, il y a tout ce que l'on peut vivre, on s'en est rendu compte autour de cette table, en termes de voisinage, c'est-à-dire il y a des nouveaux arrivants, comment vont-ils se comporter? On était tranquille quand il n'y avait personne et là d'un coup ils arrivent, est-ce qu'on dresse ou pas une clôture, et quelle clôture? Et puis ils n'arrêtent pas de sonner à la porte parce qu'il manque un peu de sel, un peu de poivre, un tournevis, un couteau, enfin bref, il y a un moment où et puis il y a une scène aussi où dans la gentillesse des nouveaux arrivants, panne de voiture. Je vous prête ma bagnole, c'est génial, c'est super sympa, mais c'est gênant, on va quand même loin, on fait plusieurs kilomètres, non mais c'est pas un problème, je vous la prête. Est-ce que je peux faire, dit la dame, est-ce que je peux faire une machine chez vous? Et là c'est non. Et la honte envahit le personnage de Jonathan Zakaï en disant mais il nous prête la bagnole, on n'est même pas capable de prêter la machine à laver.
Mais c'est assez juste, je trouve, la honte, parce que je trouve qu'ils ont une sorte de culpabilité, un peu de classe dominante vis-à-vis de ces gens-là qui arrivent. Donc il y a toujours une gêne comme ça, à pas savoir où on met le curseur dans la relation, quoi. Ça, je trouve ça assez...
Et puis c'est filmé, encore une fois, comme un thriller avec un véritable suspense. On sent qu'il y a une tension. La lumière aide à ça, le contexte aussi. On se dit, à tout moment...
Ah, la lumière m'a fait flipper. Moi.
Il peut y avoir... Non, mais c'est le talent de Sandrine Vesset, je voudrais insister là-dessus.
Il n'y a personne. Frédéric Noirhomme, t'as raison.
À tout moment, ça peut basculer, pardon.
Et de Frédéric Noirhomme, qui est le chef opérateur, qui fait une très belle lumière, justement.
C'est une sorte de huis clos, en fait, dans la campagne, une sorte d'endroit isolé où on sait que...
Dans le hameau, c'est
voilà,
ça, ouais.
Il y a un drame qui va intervenir.
Qui fait jamais beau.
Bah non, mais alors ça c'est drôle ça, parce que nous on pensait avoir du beau temps quand même en novembre-décembre, et puis il a fait un temps pourri pendant tout le tournage, donc ça a renversé un peu l'ambiance du
film. Prochaine fois vous essayez mai-juin. C'est juste un petit conseil. Octobre-novembre, on croyait péter de chaud.
Ça s'appelle Les Malvenus, c'est super bien.
Enfin, Avignon, c'est le sud quand même, je veux dire.
C'était Avignon ?
Ouais, c'était Avignon, ouais.
C'est super bien joué, c'est super bien réalisé. Et c'est bien écrit par Sandrine Vesset. On continue à parler jusqu'à midi et demi. Voici Mélodie.
Allez, ça y est, ce qui devait arriver arriva. C'est ma 20e chronique.
Non.
Oui.
Tu les comptes?
20, bien sûr.
Dagui, t'avais dit 2.
C'est passé comme l'éclair. Alors je sais, pour vous, c'est pas grand-chose. Vous en êtes à la 37 611 émission. Lisa en a écrit autant. Tanguy en a écrit 37 615. Je sais pas comment il écrit plus vite que je les écoute. Mais quand même, 20 chroniques. Et tout le monde s'en
mais
fout.
Non.
Mais
non.
Si, même pas une petite banderole, pas un petit bravo, pas une tape dans le dos, alors que je me tue à la tâche. J'écris mes textes au couteau, parfois littéralement au couteau, parce que j'ai plus de stylo et j'ai pas pris mon ordi parce qu'il est vieux et lourd avec ses ramettes de papier et ses touches en métal. Bref. Alors oui, souvent ça parle de caca et d'odeur génitale. Oui. Mais qui êtes-vous pour juger? Hein? Qui êtes-vous? Qui? Non, vraiment, qui? Parce que ça fait pas longtemps que je suis là et j'ai pas retenu tous les prénoms. Maggie. Maggie Lisa Cadour, je sais plus. Bon, et je me tue à faire participer des artistes qui patinent pour faire leur intermittent. Je donne la parole à Daniel. Et pourtant, en 20 participations, personne m'a jamais posé la moindre question. Personne me demande comment ça va, comment va ma carrière. Personne.
Mais de quelle carrière vous parlez, Mélodie?
Eh ben voilà, merci, Leïla. Merci de me poser des questions, de vous intéresser. Eh ben, vu qu'il faut tout faire soi-même, vous inquiétez pas, j'ai tout prévu. Alors, en 95, vous écoutiez... Super chanson, c'est toute mon enfance, j'ai tant appris. Et en 99, vous écoutiez...
Dis-moi, baby. Qu'est-ce que c'est que... Tu m'appelles pas à 14 du matin.
C'est quoi?
Alors, c'est quoi?
C'est
Yves Régnier.
Non.
Oui. Il y a 10 000 écoutes sur sa chanson, je l'adore, PCV, l'autre Gainsbourg, un indémodable. Et en 2023, j'écoutais...
J'ai mangé que les pépins.
Ah oui.
Quelle idée, je suis crétin. J'aurais dû bouffer la pelure. Mon petit caca serait moins dur.
Je m'y retrouve, je m'y retrouve.
Encore fois, voilà. Sa journée pour qu'il fasse ça.
Génial.
Vous voyez, c'était vraiment... pas une mauvaise idée de se découvrir. Bon, on papote, et puis on arrive doucement à la 21e chronique.
Mais c'était la 21e chronique, Mélodie.
Ah, crotte.
Mélodie Fontaine, sa carrière, comment elle avance?
Elle avance fort, elle sera à Décines demain et il reste 4 mardis au Point Virgule à Paris.
Oh, wow.
Ça, c'est la bande originale des Malvenus.
C'est pas Francky Vincent.
Mercredi 17 sur France 2 avec Géraldine Bellas, Jonathan Zagaïs, Sophie Guillemin et Yannick Chouara qui sont nos invités. Ça, c'est la musique pendant l'anniversaire. C'est pour vous dire la tension qu'il y a, quand même.
Happy
On va parler de la musique, justement, dans vos vies. Et on va évoquer année par année ce que vous écoutiez. Et puis tout à l'heure, on va recevoir Lucille Mettetal, j'espère que je prononce bien, qui est géographe urbaniste et qui parlera des bonnes relations, justement, de voisinage. Mais d'abord, Sophie Guillemin, en 2001-2002, vous écoutiez... Missy Elliott. Pour le plaisir de danser ou pour le juste plaisir de l'écouter, ce titre?
Les deux. Justement, Missy Elliott, elle est hyper forte pour ça. C'est-à-dire qu'on peut l'écouter en boucle et on peut danser sur tous ses sons toute la soirée, quoi.
On est en 2001 plutôt. Sophie, vous êtes nommée au César pour Harry, un ami qui vous veut du bien. Ce film où vous donnez la réplique à Sergi Lopez, ce film de Dominique Moll, avec encore, un peu comme dans ce film-là, des relations un peu complexes, un peu ambiguës. Votre personnage, lui, ne semble pas si ambigu que ça. C'est un personnage amoureux.
Ouais, complètement. Ouais.
Simplement dévoué à l'amour de ce personnage.
C'est un film génial. Hein.
Il
vous a laissé qu'à souvenir.
De tournage, parce que c'est surtout ça nous qu'on retient. C'est tournage génial dans le Cantal. On était tous réunis les uns avec les autres pendant 2 mois et c'était une hyper bonne ambiance. Ouais, il faisait très beau. Et plein de vaches.
C'est pas en novembre-décembre.
Je te jure des fois.
Parce que Sergi qui joue donc cet affreux Harry, lui c'est un amour dans la vie quoi. Il est hyper rigolo donc c'était tout l'inverse l'ambiance sur le plateau.
Et c'est un film qui a cartonné. C'est un film aussi qui a vécu à l'étranger, qui a été ensuite qui a voyagé beaucoup.
Ah ouais.
Mais genre vous le savez ou non?
Si, parce que j'ai vu toutes les affiches un peu internationales et tout. Oui, carrément. Ouais,
ça vous a valu des propositions justement ce film?
Non.
Pas tant que ça.
Non. On m'a pas trop appelé à l'international. Ouais.
Dominique Moll, oui, en tout cas, aux États-Unis, il est allé travailler là-bas. Le film est sorti aussi partout dans le monde et puis il a dépassé les 2-3 millions en France. Donc c'est un énorme succès. C'est pas tout de dire qu'il a marché. C'est vraiment un carton.
Carrément,
Ok. Je crois qu'on a fait le tour. Dans cette même période, Yannick, vous écoutiez.
Tombe la neige.
C'est votre truc, la météo, vous.
Yes. Pourtant, il devait faire beau.
Parce qu'il était à Strasbourg.
Strasbourg.
C'était la chanson d'un spectacle, c'est pour ça.
C'était quel spectacle?
C'était Violence de Gaby Lee, un spectacle qu'on a monté avec Yann-Joël Collin. C'était un spectacle de sortie de la promotion et qu'on devait jouer en 2003 à Avignon. Mais on a fait grève et Bernard Fèvre-Darcy avait annulé le festival. Donc ça a été un peu une chanson très mélancolique et qui rappelle cette période-là. Après, on était fiers parce qu'on a quand même, à long terme, un peu aidé à sauver le régime des intermittents à ce moment-là.
Mmh. Super.
Vous passez par l'école du TNS, du Théâtre National de Strasbourg. Ensuite, vous intégrez la troupe.
Oui, absolument.
Sous la direction de Stéphane Braunschweig. Vous avez votre tout début, le parcours, c'est vraiment le théâtre.
Oui, beaucoup.
Toujours avec cette envie quoi, de jouer quel genre de répertoire?
Oh bah de tout, le contemporain comme le classique, mais oui, j'ai fait des aventures de troupes surtout, de très grandes troupes, et notamment justement avec Yann-Joël, après être passé par la troupe de Stéphane, on est parti sur La Nuit Surprise par le Jour, où on faisait des spectacles qui duraient 7 heures, 10 heures, c'était vraiment des grandes épopées théâtrales et des tournées de 3 ans à travers la France.
Là le plaisir, est-ce qu'il est physique le plaisir d'être sur scène?
Ah oui.
Vous ressentez une adrénaline
Ah ouais, c'est très physique. Surtout sur des spectacles longs comme ça. Et même le rapport au spectateur est très différent. Ça devient une expérience commune. C'est plus juste je consomme un spectacle et je viens. Et là, je participe en tant que spectateur. Et nous, les spectacles étaient faits de telle sorte qu'on puisse intégrer le spectateur à la représentation.
En 2009, Sophie Guillemin, vous écoutiez... Jadé avec Paradise.
Et on vous retrouve au cinéma, Sophie, dans un chat de Sophie Filière.
Qui nous a malheureusement quitté.
On vous retrouve aussi dans d'autres films à cette époque-là. Avec quel objectif de comédienne? Qu'est-ce que vous vouliez devenir comme genre de comédienne? Est-ce qu'on se fixe déjà des, je sais pas, quelque chose à atteindre?
Non, moi je me suis pas fixé un genre à atteindre, mais après si on m'avait proposé des rôles par exemple historiques, parce que j'adore les films historiques, moi je suis une hyper fan de Autant en emporte le vent, Casablanca et tout ce genre de films, j'aurais adoré, chose qu'on m'a pas proposé justement encore non plus, donc je passe un message, j'adore les corsets, j'adore les crinolines, tout ça quoi.
Ouais, ouais, film d'époque en costume.
Film d'époque, j'adore. Sinon, je suis assez curieuse justement de voir quel est le désir des autres. C'est ça qui me plaît aussi en tant que comédienne, c'est justement de découvrir ce que les autres projettent sur moi et ce qu'ils imaginent de me faire jouer. Ça, j'aime bien.
C'est pas angoissant de se dire qu'on dépend du bon vouloir de quelqu'un?
C'est angoissant dans le sens où on sait jamais quand est-ce qu'on va travailler.
Ouais.
Mais c'est pas angoissant sur le genre justement des films et les particularités des personnages, parce que ça, j'aime bien justement découvrir ça à chaque fois qu'on me propose un nouveau personnage.
C'est une sorte de quête de soi en fait, ou...
Je le considère pas comme ça, parce que moi je compartimente vraiment ma vie et mon travail. Oui. Mais oui, sûrement que ça fait progresser humainement à travers tous ces personnages. Ouais.
Dans cette même période, on est toujours en 2009, Yannick Choira, vous écoutiez...
La vie, musique de Rasta.
Là, vous aviez un voisin qui avait de la bleue.
Alors, c'est en fait les choix que j'ai faits, c'est des musiques qui sont plutôt imposées à moi
sur
ces périodes-là.
Ah oui, pardon. Ouais. Je croyais par nous.
Non. Ce que j'ai vécu.
D'accord.
Et là, j'étais parti en 2007 et en 2009. À chaque fois l'été, je suis parti juillet-août en Indonésie. Et ça, c'était un tube indonésien qui résonnait partout dans le pays.
Mais j'aime bien, on va l'écouter un peu.
C'est pas mal. Ouais. Franchement, c'est des Indonésiens qui chantent.
C'est vrai ?
Ouais.
Steven and the Coconut Quiz ?
Absolument.
ça fait nom d'expatrié qui allait se perdre en Indonésie.
On va l'écouter, mais on tombe sur le pont musical.
Ah oui, oui, c'est ça.
Hein ? Ça chante ?
Oui, oui, ça chante, ouais. Bah, juste au début, ça chantait, là.
Mal, mais ça chante.
Mais Welcome to my paradise.
Ah oui. S'il te plaît. Attends, là.
On a dit
qu'on avait chanté,
ça
s'appelle Paradise.
Ah bah oui. Petit côté Ubi-Forti. Ouais, complètement.
Oui, Paradise pour de Chalet, et maintenant Welcome to Paradise. Vous êtes fait pour jouer ensemble, en tout cas.
C'est dingue.
Et à cette époque-là, on vous retrouve à la télé.
Il faisait super beau.
Je ne trompe pas.
Bah, Welcome to Paradise, quoi.
C'est pas con qui neige.
Et à cette époque-là, Yannick, vous êtes dans Vous les femmes et dans Caméra Café à peu près à cette période-là.
Ouais,
vous
2009,
avez un. Ouais, c'est ça.
2008-2009.
Hein, rôle récurrent. Donc là, l'entrée se fait par la télé.
Absolument, ouais. Et grâce à Bruno et Yvan,
Bruno Solo
et Yvan Le Bolloc. Et du coup, oui, j'arrive par la télé et par les sketchs, et notamment aussi avec Olivia Cote et Judith Siboni, avec les sketchs Vous les femmes. Voilà. Et Olivia était avec nous, on était au TNS ensemble.
C'est ce qui se rapproche le plus de la forme théâtrale à ce moment-là, c'est net, ces sketchs, ces façons de jouer des situations.
Oui, enfin.
Où il y avait, aussi une urgence à bosser.
Ouais, c'était plutôt ça.
Ouais,
Olivia et Judith avaient envie de créer quelque chose, et puis elles se connaissaient depuis longtemps, donc elles ont créé ces sketchs-là. Et puis ensuite, comme c'était la même boîte de prod qui produisait Caméra Café, ils m'ont proposé de passer les essais, et voilà, et j'ai passé les essais pour Caméra Café, et je m'attendais pas du tout à être pris. Et donc, je me suis embarqué comme ça avec Arnaud Ducret sur 400 épisodes. Ça n'a pas marché, malheureusement. mais bon, c'était merveilleux. Enfin, moi, j'arrivais dans un univers que je connaissais pas.
Et plus. Le fait d'y aller sans aucune pression particulière, c'est-à-dire pas avec le trac, le stress de « il faut absolument que je réussisse », ça aide
Quand même, parce que ça faisait quand même un peu peur. Parce que moi, j'arrivais du théâtre public, et là, je débarquais dans un milieu que je ne connaissais pas, où il y avait beaucoup d'humoristes qui étaient à fond, et Arnaud, qui est une machine de guerre. Donc, c'était très compliqué de trouver sa place. Donc, c'était un peu... Si, quand même, il y avait un peu de trac.
Il y a aussi un enjeu économique de se dire si je décroche ce rôle-là, je vais avoir de quoi bouffer et de quoi vivre pendant
C'est pas négligeable, c'est sûr. Ouais, c'est sûr.
En 2022, Sophie Guillemin, vous réalisez, vous écoutiez...
La nouvelle passion. Je l'écoute en boucle en ce moment, c'est Burna Boy. On m'a fait découvrir sur le tournage de Robin Campillo, L'île rouge à Madagascar. Et maintenant, je l'écoute, mais simplement en boucle en fait. Et ça, c'est pareil, c'est un artiste que je peux à la fois écouter et sur lequel j'ai envie de danser.
Et on vous retrouve à cette époque-là dans Sans toi. Alors, vous tenez un petit rôle, mais surtout vous réalisez, c'est votre premier long métrage avec Thierry Godard, Julia Faure, Bruno Solo, justement, dont on parlait notamment dans le casting. Une histoire d'amour, une façon de décliner l'amour aussi sur grand écran avec un amour à distance, un amour qui revient, des réminiscences d'amour en fait. L'amour
on en avait
parlé
ici avec Thierry.
On avait une super émission. Oui, c'était un film génial à réaliser parce que c'était comme une expérience un petit peu, j'allais dire expérimentale, mais du coup ça marche pas. mais je veux dire parce que j'avais pas écrit le scénario à l'avance.
Ouais.
Et donc, chaque jour, j'inventais la suite de ce qui allait se passer dans l'histoire. Et donc, c'était comme une espèce de...
Vous écrivez au fur et à mesure du
ouais.
tournage ?
Et donc, c'était comme une espèce de projection inconsciente. Enfin, c'est une espèce presque de thérapie artistique, le truc. Hein. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à la fin du film, au moment du montage, de certaines choses...
Que ça tournait plus depuis une semaine.
Ouais, par exemple, de certains motifs récurrents qui étaient déjà présents dans mes courts-métrages. Par exemple, d'accord. ce moment où il y a un gâteau d'anniversaire et c'est le moment dans la vie du protagoniste où tout bascule. Mm. Et ça, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai mis dans mes courts-métrages et je l'ai remis même deux fois dans Sans toi. Et je n'ai aucune idée de pourquoi je
Et il y a encore un gâteau d'anniversaire dans Les Malvenus, ouais. décidément. Ça va reçu des gâteaux d'anniversaire.
Mais là, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Là.
non, mais c'est vous qui l'avez mangé.
Mais ouais.
Ce
qui était super sur ce tournage, c'est que j'ai mis mon acteur et mari tout nus sur un lac gelé.
Oui, c'est vrai.
Ça, c'était vraiment chouette à faire.
Ouais. Juste pour ça.
Pour eux, ça devait être plus compliqué.
Mais justement, comment vivent les autres acteurs quand ils sont dans un projet qui s'écrit chaque jour?
Ils écoutent, ils obéissent, quoi.
Ok,
c'est pas négocié.
Wow. Elle joue bien le personnage dans Les Malvenus. Hein, elle était bien cassée sur ce coup-là. En 2022, Yannick Chouara, vous écoutiez.
Mortel appel, n'a pas sa langue dans sa poche.
Oh là là,
c'est imposé à moi.
Mortel appel, allez poussez-vous les moches.
Pas de pitié pour les gentils.
Poussez-vous les moches.
Je suis parti aux États-Unis avec mes enfants. On a loué une bagnole et on a fait l'Ouest américain. Et en fait, moi, je rêvais de rouler dans le Grand Canyon, etc., avec les Doors, etc. Et en fait, je me suis tapé Aldebert pendant 18 jours, tous les jours. Tout mortel.
On est loin de la country music
avec mes enfants.
Doors, ouais.
Donc voilà, ça me faisait rire. Voilà.
Et période riche parce que beaucoup de films, des séries aussi, Les Combattantes, Le Monde de Demain, notamment. Sentinelle, Les Harkis de Philippe Faucon, où vous revenez aussi avec lui à un cinéma aussi plus intimiste, même s'il parle d'une période importante de l'histoire française, mais d'un réalisateur qui tourne un peu autrement lui aussi.
Ah oui, carrément autrement. Ouais.
Ouais.
Ouais, ouais, il est très très précis, très c'est pas dur, mais en tout cas il sait ce qu'il ne veut pas.
Ouais.
Ouais, ouais, ouais. C'était assez intéressant de travailler avec Philippe, hein, parce qu'il demande d'aller à l'os tout le temps et à l'essence même du jeu. Donc c'est vraiment, il c'est un peintre pour moi, Philippe.
Et comment on trouve la limite justement entre aller à l'os ou aller trop loin et en faire trop?
Bah, avec le réalisateur ou la réalisatrice, ça c'est sûr. Parce que c'est vrai que bon, les malvenus, j'ai envie de dire, c'était une question qu'on se posait. Parce que tu peux vite basculer dans le stéréotype. Et donc, comment tu reviens et mais en réalité, c'est l'humanité que tu vas y trouver qui va donner le.
Ouais, ce qui est fort dans les malvenus, c'est qu'on croit analyser assez rapidement qui est qui et où sont les gentils, où sont les méchants, entre guillemets, et on se fait balader. C'est ça qui est fort.
Ouais, ouais, complètement. Ouais, c'est des faux semblants, oui, c'est ça, des choses. Où on ne sait pas, on n'arrive pas à identifier les choses, les personnages comme
c'est,
ça.
C'est plus complexe qu'il n'y paraît, comme toujours en fait.
Voilà. C'est ça qui est intéressant quand on joue, quand on travaille.
Comme dans la vie, justement, on revient à la vie. À propos de ce sujet, donc des malvenus, interprétés par nos invités Sophie Guillemin, Yannick Choira, également Géraldine Bellas et Jonathan Zakaï. Je voudrais juste reciter le gamin que j'ai trouvé par
Simon Zampieri.
Simon Zampieri, voilà. Tellement il joue bien. Et pour parler des rapports de voisinage avec Lucille Mettetal ou Mettetal ?
Mettetal, c'est très bien.
Mettetal, très bien. Pardon, mais je préfère poser la question comme ça, c'est plus respectueux. Lucille, vous êtes géographe urbaniste à l'Institut Paris Région. Les relations de bon voisinage, c'est un sujet qui est quotidien, récurrent et qui existe partout, en ville, à la campagne, petite ville, grand hameau, enfin tout, partout ?
Partout, oui. Et la bonne relation de voisinage, finalement, c'est peut-être une relation ni trop familière, ni trop méfiante, ni trop intense, ni trop distante. Et on s'aperçoit que dans les moments de catastrophe, comme les inondations, etc., c'est des liens assez faibles qui sont mobilisés et qui viennent en fait créer une forte entraide entre voisins. Et du coup, il y a vraiment cette histoire de bonne distance. Et c'est aussi une histoire de classe sociale, comme on le voit dans le film, parce que finalement, on ne se mélange pas tant entre classes sociales.
Et pourtant, si on est voisin, c'est qu'on vit au même endroit, dans les mêmes conditions, dans la même ville, donc après, on ne se pose pas la question des revenus, de qui gagne quoi chez un voisin. On est côte à côte.
On n'a pas les mêmes codes, en fait. On n'a pas les mêmes codes.
Ça, c'est valable même sur la route, si je peux me permettre.
Enfin, c'est un bon exemple.
On a le même code de la route. Mais je veux dire par là, c'est le vivre ensemble là, la question qui se pose.
Tout à fait, oui, c'est le vivre ensemble. Mais on a tendance à le magnifier. En fait, on célèbre beaucoup le lien, en France surtout. Parce qu'on compte sur ce vivre ensemble pour régler un peu tous les maux de la société.
On voit le bon voisin à quel signe ? C'est le côté « je vous dépanne si vous avez besoin de quelque chose » ?
C'est exactement ça. C'est cette histoire de bonne distance. Le bon voisin, c'est celui à qui on osera demander un service et celui à qui on va rendre un service. Le bon voisin, c'est celui qui a la juste attention à la personne âgée qui, dans des moments difficiles, va avoir besoin d'aide. Le bon voisin, c'est celui qui est attentif, discret. Et c'est cette histoire de bonne distance qui est difficile à...
Mais ça dépend de chacun, évaluer la bonne distance.
Exactement, c'est pour ça qu'il y a des frictions. Pour certains, la bonne distance, c'est pas la même que pour d'autres.
Il y a des règles aussi, mais qui ressortent du domaine de la loi. Alors il y a des règles, j'imagine, de bruit.
Des horaires,
des horaires. Dans les campagnes, il y a des règles d'arbres qui passent au-dessus de clôtures. On entend souvent parler de ce genre de problème. À quel moment qui doit tailler quoi, dans quel sens ? Est-ce que le fruit d'un arbre qui tombe chez le voisin appartient à celui chez qui c'est tombé ou appartient à celui qui a planté l'arbre. On entend de tout, non, j'imagine.
On est sur du gros conflit, là, Nagui.
Ça peut être
un fait divers.
Il y a beaucoup de faits divers qui arrivent sur le côté. Il a pas taillé ses haies, sa branche est tombée sur mon toit et a cassé mon toit. Enfin, il y a plein de trucs.
C'est tout à fait ça. Les conflits de voisinage qui dégénèrent, ils démarrent de rien du tout. Ils démarrent souvent de rien du tout, d'un prétexte, d'une haie mal taillée, d'un chien qui aboie,
du coq qui réveille, c'est ça.
Du coq qui réveille, et ça dégénère, et ça devient juridique, et c'est le code civil, et c'est des années, et ça se crispe. Là où effectivement, s'il y a quand même un minimum d'interconnaissance au départ, c'est-à-dire qu'on a appris à se parler, voilà.
Ça aide, ouais.
Ça aide quand même à surmonter les conflits. Et c'est vrai que les mairies sont un peu engorgées de conflits de voisinage qui sont à la base un peu futiles.
Et puis il y a des voisins trop présents aussi, ceux qui sont carrément en train d'observer, d'épier, de commenter ou d'être omniprésents. Et là, autant on peut se plaindre d'un voisin qui fait du bruit ou qui ne taille pas ou qui garde sa voiture devant l'entrée, autant celui qui est trop présent, trop gentil, Celui qui vous veut du bien, celui qui vous veut du bien et qui n'est pas du tout un ami. ça existe. On peut. Ouais. Vous, de ce que vous, dans votre métier finalement, quand vous vous intéressez aux problèmes de voisinage, d'abord votre rôle est de gérer entre guillemets le lien entre voisins.
Non, notre rôle c'est de l'étudier. Mais non, j'ai rien du tout.
Okay.
On étudie pour raconter à l'action publique ce qui se passe.
D'accord. Et qu'est-ce qu'il en ressort avec le temps, avec les générations, avec avec le numérique? Est-ce que on a moins de rapport avec son voisin?
Non, elles ont pas changé avec le temps. En fait, on a une espèce de nostalgie, mais ça, c'est nous. On a une nostalgie d'un passé avec un voisinage intense, beaucoup d'entraide, etc. Pas du tout. Les relations de voisinage, elles sont très très stables dans le temps. Mais c'est cette nostalgie aussi qui nous donne envie de toujours de recréer une communauté habitante, une communauté locale très forte, très soudée. Et effectivement, parfois, c'est super intrusif parce que finalement, le voisinage, c'est des codes. C'est-à-dire, c'est juste cette bonne distance.
C'est juste distance qui est pas tellement définissable. Il y a pas, X règles à suivre pour être le bon voisin. Et la fête des voisins. Alors, qui a eu l'idée? Comment elle est née, cette fête des voisins?
Moi, je crois qu'en fait, il me semble que c'est un catholique qui a dû créer la fête des voisins.
Côté catho.
Mais je pense que justement, il y avait un peu cette nostalgie de la communauté. Mais bon, on s'en fiche. En tout cas, ça marche très bien.
Oui, parce que des communautés, il y en a dans toutes les religions. C'est pas spécialement...
Non, pas du tout. En fait, je pense qu'il y avait une espèce de nostalgie quand même de recréer une communauté. D'accord. Un peu la paroisse ou un truc comme ça, je pense.
Ok.
Mais
est-ce que ça porte ses fruits? Est-ce que ça, avec le recul, on se rend compte que finalement, des personnes qui ne s'adressaient pas la parole et qui même se croisaient dans le même hall d'immeuble, ont fini par partager un apéro, un sandwich, une tartine, que sais-je?
Oui, ça porte ses fruits parce qu'en fait, il y a des gens qui ne se côtoient jamais, si ce n'est à la fête des voisins. Ouais. Donc quand même, ça crée ces liens minimums dont on sait qu'ils sont essentiels à créer ensuite de l'entraide et des services rendus. Et elle marche hyper bien, la fête des voisins. Il y a de plus en plus de gens qui y participent. Après, elle a une valeur aussi très symbolique. Les gens adorent le lien social. Même si, en fait, au quotidien, ça finit par les ennuyer un peu, on a le sentiment, et c'est pas faux, que le lien social, ça va être notre survie en cas de crise.
La limite, c'est quoi? C'est la vie privée? C'est de dire, une femme trompe son mari ou le mari trompe sa femme, on n'a pas forcément envie que le voisin soit dans l'observation d'un
va-et-vient.
La limite, c'est la vie privée.
Je pense à ça parce que je pense à la voisine de Yannick Choirin qui avait une activité professionnelle.
C'est professionnel, ça n'a rien à voir.
Si tu veux, on paiera, écoute.
C'est une profession libérale, voilà.
Non, mais c'est ça, la limite, c'est la vie privée.
Oui, c'est ça. Un voisin, c'est pas un ami.
Ça ne vous regarde pas, ça se passe chez moi, entre guillemets, comme dans le film, quand il y a une cloison qui est montée pour préserver l'intimité.
Un voisin n'est pas un ami. Les relations de voisinage, elles sont en fait assez faibles par rapport aux relations familiales ou amicales, mais elles sont beaucoup plus pérennes. Elles sont beaucoup plus pérennes dans le temps que les relations familiales ou amicales.
Parce que moins on se connaît, plus ça dure, c'est ça?
Exactement.
Est-ce que ça peut aller jusque devant les tribunaux?
Pour le mariage.
Ah ben oui, ça va. Oui, oui, ça va jusque devant les tribunaux, surtout dans les quartiers bourgeois ou gentrifiés, puisque en fait, c'est des gens diplômés qui ont les moyens
de payer un avocat et donc de faire un procès.
Ouais.
Et généralement, les procès entre voisins, c'est pour des nuisances sonores, c'est pour des
nuisances sonores avant tout.
D'accord. J'imagine qu'il y a aussi des espèces de délations sur il a fait des travaux sans permis et il a fait des choses.
Alors il y a ça, tout à fait, qui peut créer des jalousies en fait entre ceux qui vont prendre soin de demander une autorisation de travaux à la mairie, faire les choses dans les règles, et puis d'autres qui vont rien demander et faire les travaux.
Et il y a les voisins vigilants. Ça me fait rire. Ça, les panneaux qu'il y a dans les dans
les
certaines...
téléfilms américains, on voit beaucoup ça.
Non, mais même en France. Non, mais il y a le panneau voisins vigilants. Ouais, c'est-à-dire que les voisins surveillent les maisons contre les cambriolages, c'est ça?
Ouais. Avec une confusion en fait aujourd'hui entre la société privée qui vend les panneaux, les voisins vigilants, et
c'est une boîte privée qui fait ça?
Ouais.
Ah, je savais pas.
Et un dispositif qui est lui public, qui a été créé, je crois, du temps de Sarkozy,
d'accord,
qui s'appelle Participation citoyenne, et en fait l'œil est quasiment le même. Je crois qu'il y a une pupille noire pour voisins vigilants de l'entreprise privée, et la pupille elle est bleue pour Participation citoyenne. Mais cette entreprise privée, en fait, joue un peu sur
ça
la confusion.
Rien. Il y a le confinement qui a eu lieu aussi, qui a beaucoup changé les rapports de voisinage. Certains ont découvert qu'ils avaient des voisins suite au confinement.
Alors, pour le meilleur et pour le pire, hein, on a découvert qu'on avait des voisins quand on télétravaillait, et d'un coup on réalisait qu'il y avait du bruit en haut ou en bas. Ou à côté.
Et on a découvert aussi une forme de solidarité, c'est-à-dire des voisins qui allaient faire des courses pour une dame qui ne pouvait pas sortir.
Oh là là.
Quoi ?
Fatigant, mais quelle sorte un peu, hein. Là, vous pouvez m'aider. Bah non, démarre-toi.
Oui, on a découvert.
Bah, ça sort de plus ce que j'ai dit.
On a découvert ça, oui, que le lien social, c'était un facteur de résilience. Alors, c'est un mot hyper pompeux. Ouais. Néanmoins, je pense qu'on a quand même découvert ça. Mais avec, je pense, une attention. Qui est celle de dire ne comptons pas toujours sur les individus pour régler tous les maux de la société. À un moment donné, comme l'isolement des personnes âgées, c'est un vrai sujet, et on compte beaucoup, beaucoup sur les voisins. Ben oui, mais à un moment donné, il y a une action publique et des politiques publiques qui sont là aussi pour nous venir en aide.
Merci beaucoup. Vous avez des problèmes de voisinage, Lucille, ou pas ? Ça va ?
Non, j'ai des voisins adorables.
C'est, oh, c'est joli.
Ah, c'est un métier.
Lucille Métal, géographe, urbaniste à l'Institut Paris Région. Merci beaucoup pour votre visite. On va continuer d'évoquer les malvenus jusqu'à 12h30 avec nos invités Sophie Guillemin et Yannick Chouard. Mais d'abord, une vision. The Vision. Daniel Morin. Quelle est cette vision, Daniel ?
Oh, que je l'ai eu, mon Agui, ma vision. Ok, oui, mon Kiki. Cette vision, je l'ai eu hier soir en regardant du catch à la télé.
Oula !
J'étais dans le salon avec Tanguy Pastureau. Pour l'occasion, mon amoureux et moi étions en tenue de lutteur et nous mimions les prises de catch, des prises aussi viriles qu'érotiques qui nous émoustillent tous les deux. Bref, et au moment où j'étranglais Tanguy avec mes fesses, quand Tanguy suffoquait et hurlait « Serre plus fort, serre plus fort, j'adore !» C'est là que mes voisins se sont mis à taper contre le mur. Les voisins, des gens insupportables, hautement psychorigides, qui ne supportent pas le moindre bruit. Doit-on en conclure pour autant que les gens discrets et bien élevés sont chiants ? Oui, je crois qu'on peut. Du coup, j'ai énormément apprécié le couple que vous formez dans Malvenu, chers invités. Vous n'êtes pas insupportable, vous êtes vivant, voilà tout. Non mais qu'est-ce que c'est que ces gens qui lisent et qui bricolent en silence ? Quel snobisme, quel mépris, quelle suffisance. Du coup, c'est le mélange des deux. La réaction de mes voisins, plus le visionnage de votre film, qui a enclenché ma vision du jour. Pour vivre heureux, pourrissons vraiment la vie de nos voisins calmes. Comment ? Eh bien en faisant appel à des professionnels du bordel. Je connais un couple qui pourrait, en très peu de temps, pousser n'importe quel couple, calme, à déménager. Je devrais en faire un business. Vos voisins sont calmes et discrets, ça vous stresse de les savoir silencieux de l'autre côté du mur ? Pour vous en débarrasser, faites appel à Jonathan et Dolores, un couple venu du Nord à qui personne ne résiste.
Salut, moi c'est Dolores.
Coucou, c'est Jonathan.
Et on est le couple le plus brillant du monde, on peut faire fuir n'importe qui.
Ah, comment qu'on fait, Dolores?
Eh ben le matin, on se lève à 6h avec les 12 gosses et tout de suite, on met l'ambiance. Allez les gosses, merde, on se bouge le cul et école. Si vous ratez l'école, vous allez finir comme votre père, con, con, con.
Cassez le niveau du maroilles là, que des squeaks. Répondez-moi, vous êtes bâtards ou je mange tout.
Une fois les gosses à l'école, j'en profite pour soigner mon corps. Je fais du fitness.
Ah ben le corps des rêves de Dolores, c'est mon boulot. Hein. Pendant 2 heures, elle bouge comme un ver de terre, elle transpire comme un goret. Et je sais, hein, c'est moi qui fais le cours. Allez, bouge-toi le gros pion, Dolores. Si t'as pas mal, c'est que tu triches, ma crevure.
Hey, j'en fais mal, bordel, j'en fais mal.
Si j'en fais mal, c'est que je travaille, ma trompette. C'est bien, ça. Hey, si j'en claque, on fait une pause. Quand ils ont fait rater l'école, ben c'est l'heure du goûter. Là aussi, faut ambiancer, hein.
Allez, bande de merde, on se bouge le cul. Si vous ratez le goûter, vous finirez mort comme Pépé.
Qui c'est qui veut du maroilles avec le Nesquik ? Répondez-moi, vous êtes bâtard, je mange tout.
Bon, et puis le soir, pour achever les voisins, il y a le câlin. Un bon câlin bien sale pendant que les gosses y regardent The Voice sous Koh-Lanta.
Oh, le violent, ma betterave, j'ai envie de te donner du plaisir.
J'arrive, mon étalon, j'arrive. Et crois-moi, j'ai chaud, mon gros salon. Oh, c'est bon. Nom de Dieu, c'est bon comme une tartine de maroilles dans du Nesquik.
T'aimerais en fou, Dolores. Bon, tu vas pas voir, je vais te faire un autre gosse.
Vas-y, mon mécano, déglingue-moi.
Oh. Putain, là-bas, je vais te transformer en épave.
Voilà, on fait ça à peu près pendant 4 jours pour s'améliorer en TC. Normalement, au bout de 2 jours, les voisins, ils sont partis.
Personne ne peut résister à Dolores et Jonathan. Appelez-les et dites adieu à vos voisins si bien élevés et si ennuyeux à la fois. Voilà, Nagui, c'est ma vision de voisinage convivial et enthousiaste. Alors, bien sûr,
oui.
Je peux me tromper.
Carrément.
Mais ça m'étonnerait.
Merci, Daniel Morin, avec Mélodie Fontaine. De quoi allons-nous parler ?
Je vous parlais des rappels conso, de plus en plus de produits sont rappelés, des saucissons qui contiennent du verre, des tripes qui ont du plastique. La poubelle, Nagui, c'est nous.
Sophie Guillemin et Yannick Chouard sont nos invités pour parler des malvenus sur France 2. Ça sera le mercredi 17 avril. On est ensemble jusqu'à 12h30. Merci. C'est la originale. Leïla, Kadou Boudadi, Lisa, Delmoitié, Mélodie, Fontaine, Tanguy Pasturo, Daniel Morin,
Mélodie.
Et nos invités Sophie Guimard et Yannick Chauvin. Mercredi 17 avril sur France 2, un unitaire, comme on dit, un film, c'est un véritable film d'une heure et demie, réalisé par Sandrine Vessette, qui vous a présenté alors, ce projet comme étant une nouvelle vie qui s'annonce idyllique à la campagne, mais tout tourne au drame, qui vous a présenté comme une comédie qui tourne mal. Comment une réalisatrice raconte son film avant de le tourner ?
Le film s'appelait La joie de vivre.
C'est vrai ?
Ah,
j'aime beaucoup.
Ouais, La joie de vivre.
Et oui, puis, avec le point de vue de dire on quitte Paris, on va à la campagne et une nouvelle vie va commencer. Ah ouais.
Et c'est d'ailleurs comme ça qu'elle l'a présenté.
Ouais, et puis c'est ce que dit l'une des premières scènes de Géraldine Pellas, c'est de dire on imagine le soleil, les amis, un verger, des animaux qui se baladent dans la campagne, c'est-à-dire que le bon côté entre guillemets des choses, pas la gadoue, pas la galère, pas l'héliciculture, hein, c'est ça Leïla.
C'est ça.
L'élevage
des escargots.
Et puis l'arrivée surtout de voisins qui, eux, n'en ont rien à faire parce qu'ils viennent pour garder une maison à la base. Sophie.
Oh, ils viennent pour habiter dans un endroit qui leur coûte rien et pour mener leur petite vie pépère aussi. Quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont un enfant à naître, ils ont des chiens à mettre quelque part. Et donc, ils viennent surtout habiter... ils fuient aussi la ville de
la ville,
d'Avignon.
Oui, parce qu'elle travaille dans un EHPAD, c'est ça ?
Ouais.
Vous avez tourné il y a combien d'années ? Parce que là, je sens dans vos yeux le côté...
Je ne sais pas.
Je me rappelais qu'elle était infirmière, mais je ne me rappelais plus exactement où.
Elle, dans la série...
C'est pareil.
C'est-à-dire que systématiquement, quand on lui pose une question dans le film, elle répond un peu comme vous.
Bah, c'est pour ça.
Vous êtes dans le personnage.
Le choix.
Non, c'est pour ça que je ne me rappelle pas bien. Parce qu'elle-même, elle n'est pas très claire en fait, sur les détails
de sa propre... Elle vanne, elle n'arrête pas de vanner dans ses réponses. Elle prend tout sur une sorte de contre-pied qui est extrêmement mal vécu de la part de Géraldine Pellas, qui prend tout au premier degré. Alors qu'elle, elle fait juste des vannes.
Lui aussi, ils ont cet humour en partage. Hein, les situations les plus critiques.
Notamment quand il s'est cassé le dos. C'est extrêmement drôle. Ouais, ouais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? C'est extrêmement drôle.
Je trouve hyper spirituel. En fait, c'est personnel.
Complètement. Non, mais il jauge tout le temps la relation, en fait.
Exact.
Et je trouve que c'était assez intéressant, là, ce que disait la dame, parce que c'est quel chemin on fait vers l'autre. C'est un film sur l'altérité, en fait. Et quel chemin on va faire vers l'autre pour, justement, vivre ensemble.
Et il y a deux points de vue. Celui des deux couples qui s'opposent en tant que voisins, et au sein de chaque couple, l'arrivée de l'autre qui va perturber l'équilibre du couple. C'est-à-dire qu'il y a des tensions qui vont naître dans votre couple et des tensions qui vont naître dans l'autre couple aussi, parce que chacun ne veut pas gérer la situation de la même manière.
Oui, ça fait une sorte de petite bombe à chaque fois.
Carrément.
Ouais. Et nous, on s'entend bien quand même, nous.
Ouais, mais pardon, la famille aussi avec l'adolescent, ça va partir en sucette. Il faut absolument que vous le voyez. Ça s'appelle Les Malvenus.
Tu le vois, Sophie.
Ça s'appelle Les Malvenus. C'est le 17 avril sur France 2.
Et vous êtes venu pour quel film ce matin ?
Voici Tanguy Pasturo.
Je ne sais pas si vous allez en supermarché de temps en temps. Moi, oui, je fais les courses pour Daniel dans le cadre de l'opération Un Seigneur, un coup de main.
C'est gentil.
Hein, je monte ses packs de 8-6, je mets le sanglier dans le frigo, je l'aide, quoi. J'aime bien les grandes surfaces parce que tout est classé. Le bio là-bas, les fruits ici, le journal télé au niveau de la caisse. Parce que c'est l'achat coup de cœur. Hein, parfois, dans le caddie, vous avez 3 kilos de bidoche. Donc même si on couvre via Drucker, ça donne une impression de fraîcheur. Hein, et on le prend. Moi, je suis psychorigide. Donc le fait que tout soit classé, ça me rassure. Et ça me change de ce monde d'intermittent du spectacle crado, les loges des théâtres, sous la table. On retrouve les crottes de nez de Micheline Dax qui est morte il y a 10 ans. C'est jamais lavé. Le public n'imagine pas à quel point les loges souvent sont glauques. C'est un exploit qu'on arrive à s'extirper de ce cloaque et apparaître sur scène si glamour, si désirable, si sexe. Et je suis sûr que pour vous aussi, les amis, ça fait ça. Aller en hyper, c'est faire le tour du monde en restant à Dunkerque. Il y a de l'ananas du Togo, des gambasses de Madagascar, du raisin d'Afrique du Sud, des dattes de Turquie. Moi, dans les rayons, je fais des doigts en criant celui-là, il est pour toi, Phileas Fogg. Sale loser, quoi. L'hyper, c'est l'antichambre de la fin du monde. Il fera 58 degrés dehors avec mamie Irène qui a séché sur le parking avant d'avoir atteint l'entrée de Carrefour, qu'on sera encore en train d'acheter des huîtres du Pérou. Là-dedans, il y a de la malbouffe au kilomètre. Et moins c'est cher, moins c'est bon pour le corps, parce que les pauvres trinquent. Hein, toujours les riches, ils sont chez Naturalia, ils ont remplacé le sucre par du sirop d'agave depuis 2007. En fait, bah voilà, la seule chose que j'aime dans les hyper, c'est que c'est bien rangé. Le reste est atroce. Ces gosses rougeaux qu'on assis à l'avant du caddie, dos aux victuailles, combien ont été attaqués par derrière par un crabe acheté au rayon poissonnerie qui vit un retour de flamme. C'est
gens trop polis à la caisse qui disent à la vieille dame qui a juste un poireau de passer devant, laquelle se met à gueuler, viens-y là, où ton mari tombe, mon couillon. Et là, il y a son mari qui déboule avec 14 produits dans les bras. Certains, on dirait qu'ils sont en train de collecter des boyards pour une assos. Et puis surtout, il y a de plus en plus de rappels de produits. Et hier, j'étais sur internet, sur gatdloppx2.com, le site des gens qui ont un chat qui s'est assis sur le clavier de l'ordi, quand je vois passer un article du site de BFM intitulé « Rappel de saucisson pouvant contenir des corps étrangers ». L'article précise « corps étrangers inertes » qui ne donnent pas signe de vie. Si votre saucisson se met à glapir, c'est un, que ce n'est pas inerte, deux, qu'ils sont allés un peu vite sur l'abattage du porc. En fait, ici, par « corps étrangers inertes », on entend la présence possible de verre, métal, plastique, papier ou textile dans le saucisson, soit la moitié quand même de ce qu'on vend chez Leroy Merlin. Bouffer du verre et du métal, à part si vous voulez devenir fakir, ça n'a pas de sens. Même le prince William, qui est les plus grandes dans l'hémisphère nord, ils tentent pas ça. Donc ces saucissons sont rappelés. Il s'agit de saucissons Antonin, vendus entre le 23-11-2023 et le 11-02-2024 dans les magasins Intermarché d'Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. C'est très précis. Trop, en fait. À part 2-3 fétichistes du saucisson, des gens qui sont allés jusqu'à tourner dans leur garage un remake de Star Wars dans lequel Dark Vador affronte son fils avec une saucisse sèche à laser, personne ne peut se souvenir de la date d'un achat de saucisson. Si vous connaissez quelqu'un qui est comme ça, fuyez. Les trois quart des carrières de psycho-killer ont commencé avec un type qui répétait dans la cuisine « Ce matin, 11h02, j'ai acheté un saucisson à Royan !» Et des rappels conso, il y en a plein sur la page rappel.conso.gouv.fr. Alors, hier, ont été rappelés des queues de crevettes cuites semi-décortiquées, ou donc décortiquées par des feignants, c'est pareil. De la marque Carrefour, ne les mangez pas. On a détecté des nitrofuranes, des composants chimiques. Il y a des lardons de volaille à cuire qui contiennent de la listeria. Hier a aussi été rappelé alors un gilet fluo de running, un pour être vu dans le noir, parce que si vous finissez sous une 2008, toutes ces heures de running à vous façonner un petit cul, bon, ça n'aura servi à rien. Et en fait, sur ce gilet, il y a des LED dont l'accès aux piles est trop facile. Un enfant pourrait les manger. Un gosse qu'on a habitué à bouffer du saucisson au métal et qui serait dit, ça doit être la même chose, mais pour vegan. Alors attention, sont rappelés des feuilletés aux escargots de Bourgogne de la marque Thiriet, présence potentielle de morceaux de plastique. Voilà, en fait, ce qu'on mange le plus, c'est du plastique. Franchement, moi, mes cours, je les fais directement à la boutique Lego maintenant. L'école des sorciers d'Harry Potter, c'est 7 à 8 euros. Minimum. Autre produit problématique, le porte-clés panda du zoo de Beauval, risque d'ingestion de l'attache pour les 3-4 tarés qui seraient mis à l'échouiller le panda, quoi. Il est écrit rapporter le produit au zoo de Beauval, qui donc fait 2 entrées. C'est pas con, hein. Si ça se trouve, il y a un type là-bas chargé de saboter tous les produits de la boutique. En rappel conso, il y a également, eh bien, des voitures. Une Opel Corsa a un essieu arrière mal soudé. C'est embêtant si jamais vous l'aviez acheté pour rouler avec. La Honda ZR-V, elle, a l'appui-tête plié vers l'avant, ce qui fait qu'une fois dedans, vous avez la tête écrasée sur le volant, hein, vous faites toute la traversée de Limoges à l'aveugle en klaxonnant. Super projet de vie. Un pot de confiture au pruneau de la marque Transit Nature est rappelé pour suspicion de bris de verre. Alors ça accélère en effet le transit, hein, dans le sens où vous évacuez même votre côlon. Enfin, un rappel de terrine de lapin aux escargots de la maison Cotin est effectué. Lapin, escargot, en fait là-dedans, ils ont compacté, voilà, tout ce qui se trouvait dans un périmètre donné. Hein, dans la terrine, il y a aussi des orties et un randonneur, hein, Gilbert, qui faisait une pause. Bref, la solution, eh ben, ne mangez rien, n'achetez rien. Mon conseil, en fait, soyez mort. Voilà. De toute façon, avec tout ce qu'on bouffe là, franchement, ah, ça va venir vite.
C'est juste, dès que c'est industriel, il y a forcément du plastique, ouais, et de la merde.
Forcément,
mais pas loin. Quoi.
Mais il y a des risques. Il y a des risques.
Oui. C'est affolant. Tanguy Pastureau, oui, ça aussi c'est affolant.
Le 19 mars prochain à Yvetot, à l'espace Les Vikings.
Les Malvenus, ça sera le 17 avril à 21h10 sur France 2. Et ce qui est sûr, c'est que Sophie Guimain va le regarder. Exactement ce qui s'y passe. Et si tout ce que lui a raconté Yannick Chouara est vrai. Pour l'instant, autre événement culturel, Leïla.
Oui. Lors du week-end dernier, le week-end pascal, on a consommé beaucoup de chocolat avec la chasse aux œufs. Et pendant ce temps fort aussi pour les catholiques du monde entier, il y a eu beaucoup de quoi ?
Waouh !
De crise de
pas diabète. De prière.
De miracle.
Enfin, il y a sans doute eu beaucoup de prières, oui, pardon,
de
mais c'est pas ce que j'attends. Pas de miracle, non. Un phénomène en augmentation, le nombre est à la hausse.
Les baptêmes.
Bravo. Le nombre de baptêmes pour adolescents et adultes.
Adultes,
voilà. On recense un peu plus de 7000 catéchumènes. Alors, ça ne compense pas la perte de vitesse de l'Église et qui est frappée par de multiples, on le sait, un scandale lié à la pédocriminalité. Ah bon voilà. Mais en tout cas, il y a
un petit mouvement, un petit élan, alors qui ne viendra pas non plus compenser le nombre de croyants en baisse en France, en tout cas, hein, parce que les chiffres internationaux, c'est encore autre chose. Vous croyez en quoi, vous, tous les deux, Sophie, Yannick ? C'est pas forcément religieux, la croyance.
Vous croyez en quoi ? Oui, c'est ça.
On peut avoir
foi. J'aime bien me dire que je sais pas ce qu'il y a, et comme ça, une fois qu'on sera de l'autre côté, on aura toute l'attitude à le découvrir.
Vous pensez qu'il y a déjà un autre côté ?
Ouais,
moi, déjà il y a ça. Un autre côté, c'est déjà une croyance.
Je pense qu'il y a un sens à la vie.
Ouais, le sens à la vie dans une vie après.
Dans un tout qui nous échappe forcément, parce que je pense que de manière très humble, c'est compliqué pour l'homme de tout connaître et tout savoir, tout simplement. Quoi.
Ouais. Donc ça, vous avez foi dans la découverte, vous, en fait. Ouais. Et vous, Yannick, vous avez foi en quoi ?
Moi, j'ai foi en... j'essaie de tourner ma phrase, mais
j'ai foi en l'apéro.
Au collectif, le collectif, le collectif, parce qu'ayant eu pas mal d'histoires de troupes, je vois que quand il y a un bon directeur de troupe, il y a une belle direction qui est prise, et si chacun se fédère autour de ça, ça peut être très très beau.
Non, mais dans le collectif, vous mettez aussi de l'amitié, vous mettez aussi
la voisine du dessus.
Le millefeuille de voisine.
Non, mais il y a aussi des trahisons dans
ouais, ça c'est sûr. Mais bon, des expériences que j'ai eues, vraiment, il y a eu des choses, où le collectif a été une force incroyable.
Autre question, 142 ans de travaux. Et on a enfin une date de fin, ça sera 2026.
Ah, la Sagrada Familia.
Bravo Tanguy, la Sagrada Familia.
Très religieux aujourd'hui.
Classée patrimoine mondial. Là, j'ai trouvé ça comme ça. La Sagrada Familia de Gaudi. Il avait 31 ans en fait quand il a commencé l'édification, la construction de ce monument. Il s'y est consacré pendant 40 ans, jusqu'à un jour de 1926 où il a traversé sans regarder et boum, un tramway. Moi, je m'intéresse toujours. On ne sait jamais comment les gens meurent. Et Gaudi, c'est un peu bête.
Et boum, un tramway. Kennedy, on sait quand même.
Oui, mais la grande majorité des gens, on ne sait pas comment ils disparaissent.
C'était une absence de toi à la voiture.
Ah, d'accord.
Kennedy, oui, absolument. Voilà. Qui a dit et si on décapotait ?
Jamais, jamais.
En tout cas, c'est un édifice qu'on a toujours connu en travaux. Donc, 2026, on verra enfin cet édifice achevé selon les demandes, les vœux de Gaudi qui étaient très, très, très précis. L'édifice recueille de l'argent beaucoup par la visite. Et là, le nombre de visites a beaucoup augmenté. Et ça a permis de financer des travaux qui ont aussi pris plus de 40% en plus après le Covid, comme dans tous les travaux en général. Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir achevé tous les deux ?
Une église, une petite chapelle.
La lecture du scénario des Malvenus pour ce film.
Co-signé par Virginie Despentes d'ailleurs.
Ah. Oui, c'est vrai.
Le scénario. Ouais. Ah oui, bon.
Sans la guerre, vous savez pas ?
Ah ouais, c'est bah fort, si, elle est là. C'est chouette. Que Virginie Despentes.
Mais non, je ne savais pas, mais je l'ai appris il y a 3 jours. Ah, c'est incroyable.
Bah, voilà. Elle nous cache tout.
Mais vous avez bien fait de venir, c'est incroyable.
Ouais,
ça.
Ouais.
C'est
dingue, elle a fait plein de choses. Elle ne nous disait pas ce qu'on tournait et tout. On a tout découvert.
C'est vrai. Qu'est-ce que vous regrettez de ne pas avoir achevé ? Est-ce que vous êtes du genre à ne pas finir les choses ?
Ah non, pas du tout.
Moi non plus.
Vous allez au bout de tout ?
Ouais, pour pas avoir de regrets, justement.
Ouais, même scénario, écriture, chose des idées.
Ah oui, alors oui. Ah, voilà. C'est pas un regret de pas l'avoir achevé, c'est de pas l'avoir encore fait. Donc...
Même pas avoir commencé.
Mais, si, avoir commencé. Ouais,
donc
ouais.
Pas avoir achevé.
Mais, une écriture, une réalisation de scénario.
Ouais. Et vous, Sophie ?
Moi, je suis un peu comme Yannick, c'est-à-dire que
je n'écris pas mes scénars.
Je suis obligée justement d'aller toujours au bout de ce que je commence. Mais c'est presque dans le côté, s'il y avait un extrême, ce serait cet extrême-là plutôt que l'inverse.
Ouais,
quoi.
C'est un trait de caractère quasiment.
Ouais. Donc je peux ne pas lâcher un truc trop longtemps presque.
D'accord.
Voilà, donc c'est plutôt dans
l'abandonner.
Et pour en revenir à la Sagrada Familia, qui est un endroit absolument sublime, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le visiter.
En travaux, oui.
Et est-ce que,
comme tous, ou alors vous êtes vraiment très vieux. Comme ça fait 142 ans, Yannick, petit calcul.
Est-ce qu'il y a des endroits comme ça, des lieux, pas forcément des lieux de culte, mais enfin des lieux à voir une fois dans sa vie, que vous aimeriez voir, que ce soit des lieux naturels, je pense aux chutes de Victoria, est-ce qu'il y a des endroits comme ça à voir absolument une fois dans sa vie.
Moi, j'aimerais bien aller à Petra.
Ah ouais.
Ouais, j'aimerais bien voir Petra.
Parce que
comme ça, par curiosité, parce que quand je vois les images, ça m'interpelle.
C'est en Jordanie.
En Jordanie.
Sophie ?
Moi, je dirais le Taj Mahal. C'est hyper romantique, quoi.
Est-ce qu'on choisit, on peut choisir aussi un tournage en fonction du lieu de tournage? Est-ce que d'un coup, dans la balance,
surtout la météo,
si, hein, on, vous dit, si on vous dit ça se passe à tel endroit, vous dites ah, j'ai pas aimé le scénar, mais par contre, je me ferais laisser y aller. Non, mais on
c'est
est entre nous.
Si le scénar
on,
est pas bon.
Je vous demande pas de. Vous en avez fait d'autres. Je vous demande pas de dire lequel, mais est-ce que ça peut être l'un des ingrédients, comme celui aussi de tourner avec tel ou tel acteur,
ouais,
actrice ou absolument, réalisateur?
Oui, je trouve aussi.
Ouais. Ouais. Vous aimeriez tourner avec qui, Sophie Guillemin?
Plein de monde dans les Français.
Ouais. Non, ce que vous voulez, ou même...
Il y a James Cameron, ce matin, je l'ai croisé dans le...
D'accord.
Dans
et vous, cher- vous cherchez?
Oui, je l'ai raté, il est monté. Dans
donc avec qui aimeriez-vous tourner?
Moi, Lindon, je trouve que c'est un hyper bon acteur, hyper fascinant. Binoche, je trouve que c'est une actrice aussi incroyable. En réalisatrice, j'adore Rebecca Zlotowski. Ah ouais. Brisé, j'aime beaucoup
Stéphane Brisé.
Il y en a pas mal. En
Anne
fait.
Fontaine, pour laquelle vous avez joué dans le Boléro, qui est toujours à l'affiche.
Oui. Ouais.
Film sublime. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Mais,
nous, on l'a vu en tout cas.
Non, on a adoré. Avec Raphaël Persona, Doria Tillier, Jeanne Balibar, entre autres. Vous serez à l'affiche de Juliette au printemps. Vous pouvez nous en dire quelque chose? Vous l'avez pas encore vu?
Je l'ai vu deux fois.
Waouh!
Wow. Ah, avec Izia Higelin et Jean-Pierre Darroussin.
Je suis hyper fière, tu sais.
Quel est votre personnage?
C'est une mère de famille qui est un peu sous l'eau dans la monotonie de sa vie, qui a pris un amant, qui est hyper rigolo, qui est joué par Thomas de Pourquerie.
J'adore l'idée que l'amant soit rigolo.
Ouais, c'est exactement ça, parce qu'il tient un magasin de déguisement. Et donc à chaque fois qu'il arrive chez moi...
Il est déguisé.
Il est déguisé. En plein de trucs différents, un canard, un fantôme, un ourson.
Ah ouais.
Donc ça, c'est hyper chouette.
Mais c'est insupportable.
Ça. Mais c'est génial.
Non.
Mais ça nous change tellement des scénarios. Tu vois, où l'homme, il a une maîtresse qui est super belle et tout. Elle cherche quelqu'un pour le divertir, elle prend un mec qui arrive déguisé. C'est super.
Ouais, ouais,
c'est super.
Dans les beaux costumes.
C'est le principe.
Et une drôle d'engine, ton
père. Oui, des
enfants. Vous serez au casting de Vivre, Mourir, Renaître, également, de Gaël Morel. Avec Lou Lambros et Victor Belmondo. Et cette fois-ci, vous êtes dans ce film?
J'ose pas le dire, parce que pour la première fois de ma vie, je joue une grand-mère, en fait.
D'accord. Oui. Bah, très bien.
Ça se passe dans le Nord.
Sérieux?
Je sais pas, j'ai eu un moment où je me suis dit comment je dois le prendre de la part de Gaël.
Comme être capable de tout jouer, c'est tout. Ouais. Vous serez également à l'affiche, c'est riche comme emploi du temps, de Je le jure, de Samuel Taïs avec Louise Bourgoin et Michel Escaut. Et enfin, vous serez dans À la hauteur avec Vincent Lindon.
Ouais. Avec qui, du coup, j'ai joué, mais c'est une toute petite scène.
Oui,
c'est
oui pour tout ça. À l'heure, vous avez dit j'aimerais bien tourner
ouais,
avec
mais là,
Vincent
c'est une
Lindon, vous l'avez déjà fait.
Scène.
Elle se souvient plus.
Non seulement elle ne lit pas les scénars, mais elle ne sait même pas avec qui elle joue.
Et tant que l'émission s'arrête, hein, parce que passer 90 minutes, ça a plus du tout.
Et vous êtes également aux côtés de Benjamin Voisin, ce qui me fait rappeler donc Les Malvenus, qui sera le 17 avril sur France 2. Et tout pour Agnès, racontez-moi alors, Yannick.
Ah oui, on en avait parlé déjà ici.
Tout pour Agnès, oui. Vous voulez savoir quoi? Tout. Ah non, mais moi j'ai adoré faire ce projet de Vincent Garanc et c'était une histoire assez dingue et la prépa aussi était chouette.
Et pourquoi c'est dingue? C'est
l'histoire de cette héritière, enfin cette jeune femme qui
s'est tuée.
C'est ça, c'est une histoire vraie.
À Nice, le palais de la Méditerranée, qui est un casino tenu par la famille Leroux.
Voilà.
Et donc Agnès Leroux disparaît en 78 ou 17, et on n'a jamais retrouvé le corps, et on soupçonne l'avocat du palais de la Méditerranée d'avoir tué cette jeune fille, puisque c'était son amant.
Aujourd'hui, on ne sait toujours pas.
On ne sait toujours pas. On n'a pas retrouvé ni le corps, ni.
Mais est-ce qu'on peut faire une fiction sans savoir la vérité et dans la fiction, on présente une vérité ou on reste justement en suspens en disant on ne sait pas? Ou est-ce qu'il y a vraiment un point de vue?
On suggère une vérité.
Allô, la police, non, je mais suggère c'est un truc.
Après, le point de vue, il est intéressant parce qu'il est vraiment sur aussi l'affaire familiale et puis l'intrusion de cet homme dans cette histoire de famille, d'héritage. D'accord. Et comment lui essaye aussi d'ailleurs d'être un transfuge de classe, puisqu'il essaye il a une ambition qui va être contrariée.
Et vous jouez quel personnage?
Je joue Maurice Agnolet, l'avocat.
D'accord.
Vous êtes coupable.
Voilà.
Vous donnez. C'est bien, il a été flou hein, sur le qui est coupable. On suggère.
On suggère qu'il est coupable.
On suggère, mais ça s'appelle le coupable et deux points. Vous donnez la réplique.
Il y a eu la justice quand même, il y a eu un jugement. Ouais.
Vous donnez la réplique à Bérénice Béjot dans Sous la scène de Xavier Gens.
Ouais.
Là, ce sont les championnats du monde de triathlon sur la scène.
Sur la scène.
Non, pas sous.
Sur la scène. Oui, je fais la scène d'ouverture du film. Voilà. Où je suis le compagnon de Bérénice. Et c'est une attaque de requins dans Paris.
C'est ça. C'est sur l'écologie, en fait, non c'est
ouais,
ça
carrément, ouais. Ouais. Mais c'est un film de genre.
Très bien. Elle nous a dit, Sophie Guimain, vouloir jouer avec Vincent Lindon. Entre autres, vous aimeriez jouer avec
qui? Si, c'est un formidable acteur, oui, bien sûr.
Avec quel réalisateur, réalisatrice ou
Moi, j'aime Robin Campillo, ouais, ça, j'aimerais bien. Mmh. Ouais. Cédric Kahn, j'aime beaucoup. Julia Ducournau, Justine Triet, évidemment, mais c'est... Voilà, et puis voilà, c'est...
Et vous serez le 7 avril sur OCS dans Home Jacking également, j'ai oublié.
Home Jacking d'Hervé Admar, tout à fait. Une série qui commence le 7 avril et qui raconte l'histoire d'un couple qui va se faire home jacker. On va comprendre épisode par épisode pourquoi.
Tristement dans l'actualité. Et vous serez au théâtre à partir du 24 avril.
À partir du 24 avril jusqu'au 14 juillet.
La réunification des deux Corées.
La reprise de la réunification des deux Corées qu'on avait créée en 2013. Et là, on recrée la mise en scène parce que à l'origine, on était en bifrontal. Mmh. Et là, on le fait en frontal pour pouvoir le jouer à la Porte Saint-Martin.
Et j'ai oublié de préciser tout à l'heure, Sophie Guimain, que vous serez également à l'affiche de François Ozon, du film, de son nouveau film, Quand vient l'automne.
C'est ça.
Qui sortira.
On ne sait pas. J'imagine à l'automne.
Enfin, vous savez
non,
pas.
Non.
J'imagine à l'automne.
Ils osent faire ça. Ok, d'accord. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Déjà, désolé pour Vincent Delerme, Juliette Armanet, Dominica, Benjamin Biolay, bref, tous les cadors, les princesses, les seigneurs de la programmation musicale de France Inter qui ont été ce matin remplacés par...
Je n'ai mangé que les pépins.
Par Francky Vincent, mais également remplacés par... Et bien Francky Vincent encore. Hein,
toucher la chatte à la voisine.
Ah ça on adore, hein, on leur a souillé, on leur a salopé hein, quand même hein, cette antenne. Désolé pour tous les jardiniers paysagistes qui m'ont contacté à la pause pour se proposer de venir débroussailler Lisa Delmoitier, celle qu'on appelle aussi le barbelé de Molenbeek. Alors, je vais passer vos contacts, mais attention, selon mes sources, on n'est pas sur un plan sécateur, on est sur un chantier tronçonneuse. Désolé pour Yannick Chouara, ardent défenseur de ce dérèglement climatique qui voudrait que tombe la neige en avril et qui pense qu'il fait chaud en novembre. Alors Yannick, elle a abîmé la planète. On n'en est pas encore là quand même. En revanche, c'est votre 4x4 diesel qui tourne encore en bas de la maison de la radio. Et ça c'est mal.
Merci Sophie Guimain, Yannick Chouara d'être venu nous parler de ce film Les Malvenus, le 17 avril sur France 2, signé Sandrine Vessette, avec Géraldine Pellas et Jonathan Zakaï également, sans oublier Simon Zampieri. Portez-vous bien, à très bientôt. Et demain nous recevons Guillaume Musso. Bonne journée sur Inter.